Un jeune homme allait se marier. Il terminait ses études de marbrier funéraire et en tout genre. Il était de bonne famille, son père dirigeait la section K des chaudières tubulaires et sa mère pesait 67 kilos. Il vivait au numéro 15, rue des Deux Frères. Le papier de la salle à manger, malheureusement, n'avait pas changé depuis 1926 et représentait des oranges oranges sur un fond bleu de Prusse, ce qui est laid. De nos jours, on n'aurait rien mis, et ceci sur un fond d'une couleur différente, plus claire par exemple. Il s'appelait Fidèle, et son père, Juste. Sa mère aussi avait un nom. Comme tous les soirs, il prit le métro pour se rendre à son cours. Une pierre tombale sous le bras et ses outils dans une petite valise. À cause de la pierre, il se payait des couchettes afin d'éviter les remarques souvent acides et pourtant abîmées et pouvant abîmer le grain joli du calcaire que l'on s'attire dans les voitures ordinaires à voyager très chargé. À la station d'Enfer Rocheron, il monta dans le même compartiment un autre élève du cours, de la section supérieure. Il portait une pierre tombale de plus grande dimension et dans un cabas il avait en plus une belle croix de perles violette. Fidèle le salua. La discipline du cours était sévère. Ils devaient tous porter un complet noir et changer de linge deux fois par semaine. Ils devaient aussi s'abstenir de manifestations déplacées telles que sortir sans chapeau ou fumer dans la rue. Fidèle enviait la croix violette. Mais l'année s'avançait et dans deux mois, il passerait aussi dans la classe supérieure. Il aurait alors accès aux grandes pierres tombales, à deux croix de perles et une de granit qu'on n'avait pas le droit d'emporter pour travailler chez soi. Le matériel était marqué au nom du directeur du cours, vu son prix important, mais les élèves avaient l'autorisation de travailler chez eux certaines combinaisons esthétiques afin de profiter complètement de l'enseignement reçu en cours. Dans la première section, on étudiait les marbres pour enfants jusqu'à 13 ans. Puis on avait droit aux 3 J, J3. Et enfin, dans la troisième section, on opérait sur des tombes d'adultes les plus intéressantes et les plus variées. Il s'agissait bien, entendu, d'études théoriques, les connaissances acquises visaient le projet et la disposition des pierres. L'exécution de la taille et la réalisation matérielle de la sculpture appartenaient aux élèves de la division réalisation. L'école avait un bureau de placement et accouplait en général les élèves ayant satisfait aux épreuves du concours de sortie par pair. Un projeteur et un réalisateur choisis d'après leurs affinités respectives et d'après une série de tests suivant les méthodes de la société du transport parisien. Le projeteur étudiait également le côté commercial du métier et les relations avec la clientèle, ce qui justifiait la nécessité d'une correction parfaite dans la tenue et les manières. Les deux élèves descendirent en même temps à la station Saint-Michel et remontèrent le boulevard. Le siège social du cours s'était établi dans les ruines des thermes de Julien l'Apostolat par autorisation spéciale des abbés de Cluny et une partie de l'enseignement avait lieu la nuit en plein air, au milieu des ruines, afin de placer les élèves en l'état de réceptivité propice à l'épanouissement d'une esthétique funéraire moderne et raffinée. Comme ils approchaient des ruines, le glas retentit et ils pressèrent l'allure, car c'était l'heure.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée.
Oui, mais alors là, la tête, ça va pas du tout, je pense. Quand même. L'essence de tenue, hein, tu ne penses pas. Tu devrais entretenir plus souvent ton matériel. Passe pourquoi.
Les cours s'interrompaient à minuit pour une récréation d'une heure environ et les élèves profitaient de ce moment pour respirer l'air frais des ruines et s'amuser à déchiffrer les inscriptions que l'on trouve sur les pierres tombales hébraïques dont les termes de Julien recèlent un nombre imposant. Il leur était également loisible, pendant ces 60 minutes de détente, d'aller prendre une boisson quelconque au bar tenu par les abbés de Cluny, Lazare Veil et Joseph Simonovitch, des hommes qui avait l'enseignement fertile sur l'air du tailleur, du marbre et riche d'aperçus originaux de toute nature, le charmait au plus haut point le studieux fidèle. C'était ce professeur dont la pensée ne quittait les pierres que pour s'attarder au contour d'une image gracieuse, sa fiancée, Noémie. Noémie, dont le père était inspecteur et la mère encore bien conservée, vivant simplement dans un appartement du boulevard Saint-Germain, 12 pièces au second. Elle avait 2 sœurs du même âge qu'elle. Et oui, qu'elle. Et 3 frères, dont l'un avait 1 an de plus, et qu'on appelait pour cette raison l'aîné. Quelquefois, Noémie venait passer un instant avec son fiancé au bar du musée, sous l'œil paternel de Joseph Simonovitch, et les 2 jeunes gens échangeaient de doux serments en buvant un grave ghost, le triomphe de Joseph. En temps normal, les élèves du cours n'avaient droit qu'au café noir avec une larme d'argent, mais le règlement subissait quelques petites entorses en conséquences graves pour la célébrité morale des élèves, ceux-ci conservaient toujours une dignité parfaite. Ce soir-là, Noémie ne vint pas rejoindre Fidèle. Il avait donné rendez-vous à Laurent, un ancien camarade de lycée, interne à l'Hôtel Dieu. Laurent restait souvent de garde la nuit et s'échappait du dortoir lorsque les besoins du service ne l'accaparaient point trop. Laurent arriva vers 1h-20, il était en retard. On venait d'amener à l'Hôtel Dieu un ivrogne. 5 ou 6 agents l'accompagnaient comme d'habitude. Tout d'abord, on ne comprenait pas qu'il s'agissait d'un ivrogne. Cependant, la bonne foi des agents qu'il avait assommés ne pouvait être mis en cause. Et comme il était dans le coma, on dut se passer de son témoignage.
Il criait « Vive la liberté !» dit un gendarme. Et il a traversé en dehors des clous. Alors on lui est rentré dedans, dit un autre gendarme. On peut pas admettre que dans un quartier d'étudiants, des individus ébriétés donnent le mauvais exemple de la jeunesse.
Honteux, le type mourut avant l'opération, sous le chloroforme, et ça avait retardé Laurent. Par chance, son collègue Peter Gna s'était occupé du type et gardait le service.
Et quand te marie-tu ?
Dit Laurent. La semaine prochaine.
Et quand dois-tu enterrer ta vie de garçon ? C'est un sport auquel tu dois être préparé.
Oh, mon Dieu ! Dit Fidèle amusé. Je suppose que je vais faire ça la semaine prochaine aussi.
Tu sais que tu devrais commencer à t'en occuper sérieusement.
Je m'en occupe sérieusement.
Qui inviteras-tu ?
Toi, Pierre et le Major.
Qui est le Major ?
C'est un ami de Pierre. Pierre tient absolument à me le faire connaître.
Qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Il paraît qu'il a visité des tas de cimetières. Il peut m'être utile pour ma carrière. Enfin, c'est un type très drôle.
Va pour le Major. Dis Laurent et les filles, là.
Pas de filles. Sauf que je me marierai 3 jours après.
Alors, pourquoi crois-tu qu'on enterre sa vie de garçon ?
L'enterrement est une chose sérieuse et je veux pouvoir donner à ma fiancée ce que j'exige d'elle.
À savoir une virginité parfaite ?
Tout au moins une virginité récente.
Bon. Alors, ce sera un dîner de garçon ?
Bien entendu. Mercredi soir, à 7h, c'est moi. Ils quittèrent le bar comme sonnait 1h du matin. Laurent serra la main de son ami et salua Joseph en s'en allant. Fidèle rejoignit ses camarades dans la crypte sud où avait lieu le cours. Elle constituait également la salle d'exposition des projets de fin d'année. Le cours commença. Il traitait de l'opportunité de passer à la couleur noire les graviers que l'on dispose entre les pieds de buis nains formant la garniture végétale du modèle numéro 28 en granit, type avec croix de mi-relief. Fidèle tira son carnet de dot et s'installa sur un bloc de marbre rouge fantaisie. Fidèle sortit avec un camarade pour une récréation d'une demi-heure dans les ruines. Il vit 2 étoiles, à peu près toutes sauf celle Betelgeuse, dont la consommation trop forte le mois précédent avait motivé l'extinction temporaire. Fidèle serra son cache-colle autour de son cou. Il venait du boulevard un petit vent à travers les grilles et il s'arrangeait pour rester dans les zones d'air calme, derrière les barreaux. Il s'approcha du coin où sont entassées les pierres tombales hébraïques dont on leur permettait d'examiner les détails et s'assit sur l'une d'elles. Devant lui, un fragment de voûte, reste de la colonnade, gisait à demi enterré. Il affectait curieusement la forme générale d'une huître parfaitement cylindrique avec un fond plat et l'autre hémisphérique. Fidèle tenta de le retourner. Il y parvint péniblement. 2 perce-oreilles à moitié endormies en lacets dormaient en dessous, à côté d'un mille-pattes et 3 bêtises de cambrai en parfait état de conservation. Il les savoura une à une, fit retomber la pierre dans son logement et constatant à ce moment sa ressemblance frappante avec une huître, il sortit de sa poche un bédane et tenta de l'ouvrir, agenouillé devant. Après d'infructueux efforts, il réussit à engager l'extrémité du bédane dans une fente latérale à demi bouchée par de la terre et de la mousse, exerça une forte pesée et la bedane se brisa. Il en prit un autre. Découragé, la pierre céda. Et il reposa doucement le couvercle à côté de lui et regarda. Sur une couche de sable fin reposait la photographie de Noémie, encadrée de bois sculpté, sous une vitre légèrement teintée de rose. Il mit la rose à sa boutonnière et saisit le portrait puis le reposa sur le sable. Noémie remua les lèvres et il brisa la vitre pour entendre ses paroles. Et lui dit aussi combien il l'aimait. Le jour commençait. Ça allait être le dernier cours. Un oiseau sortit de son nid, secoua une à une les brindilles le composant, s'ébroua, s'étira, s'envola, revint avec son déjeuner. Mais Fidèle n'était plus là. L'oiseau mangea les deux parts. Il fut malade toute la matinée. Noémie lisait dans sa chambre. On venait d'apporter son petit déjeuner, une tarte aux noix et une langoustine à la mayonnaise. Elle ménageait son foie qu'elle avait sensible. Son livre racontait la vie de la très sainte Élisabeth de Hongrie par monsieur le vicomte de Montalembert. Et Noémie pleurait beaucoup car c'était la mort du vaillant et jeune burgrave, mari de la courageuse Élisabeth. Elle avait le cœur en fête et pour cette raison ferma le livre et prit sa place dans son lit. Mais elle pensa soudain à des choses sérieuses et s'arrêta de lire car il fallut se lever pour chercher un ouvrage correspondant et sur la table de chevet, il ne restait que l'annuaire des téléphones. Pour se délaisser l'esprit, elle fit quelques mouvements de gymnastique finlandaise qui se pratique sans remuer, en position couchée et consiste en la tension suivie de la détention de certains muscles judicieusement choisis. Elle se leva, s'habilla d'une robe de toile aux couleurs gaies, monta trois marches et tomba d'une hauteur de 50 cm dans la chambre voisine qui était de plein pied avec la sienne. Elle y gagna une entorse légère et se rendit dans la salle de bain pour bander sa cheville. Elle s'assit alors devant la glace et lissa ses cheveux roux foncés. Elle sourit à son image, mais la douleur de sa cheville empêcha celle-ci de lui rendre ce sourire, et Noémie, émue, se mit à pleurer. Son reflet, courageusement, s'efforça de sourire pour lui redonner le calme, et tout rentra dans l'ordre, pourtant déjà bien plein. Fidèle commençait à préparer la réception de ses amis. Il n'y aurait pas de parents. Leur voisinage est parfois compatible avec la liberté, mais c'est justement cette sorte de parents qui décident eux-mêmes de se rendre au cinéma pour laisser à la jeunesse le champ libre. Fidèle n'envisageait pas l'orgie. Néanmoins, la pudeur commande certaines restrictions verbales dans l'expression de ses sentiments devant les personnes plus âgées, et Fidèle voulait tout de moins dépeindre à ses camarades la profusion de sa félicité en une bacchanale phraséologique dont il frissonnait à l'avance. La salle à manger, pièce allongée et haute, se prêterait commandément au repas. Des photos de tombes de luxe, maquettes de projets établis par Fidèle, égayaient les murs de la note grise des vieilles pierres. Peu de meubles, un long buffet bas de rouleau, Marie supportait deux flambeaux d'argent garnis de bougies rouges, une table du même bois, des chaises d'un bleu plus foncé, presque noir, que l'on trouve en Afrique et que l'on appelle là-bas d'un nom dont la traduction littérale serait ébénié garni de marocains rouges. Fidèle se placerait le dos aux fenêtres. Le seul ennui, c'était le papier avec les oranges-oranges sur fond bleu de Prusse. Et Fidèle prit le téléphone et téléphona qu'on vint le changer. Il voulait des oranges bleues de Prusse sur fond orange. À la réflexion, il décida qu'un papier beige uni et granité ne serait pas mal non plus, et le peintre posa des bandes alternativement ivoire et blanc crème avec une bordure rouge vif assortie au maroquin des chaises et remplaça les photos de tombe par le portrait de Noémie qu'il tira avec un sourire complice de sa table à collier pliante. Le matin, Noémie paraissait dans son lit jusqu'à une heure avancée de la matinée. Elle ne restait pas complètement inactive. Elle avait pris son tricot. Il y avait dans la corbeille d'osier verni trois grosses pelotes de laine angora blanche et trois grosses pelotes de laine angora rouge ordinaire. Elle terminait le haut du devant, encore 14 rangs. Tout le devant était d'angora blanc avec déjà sur deux rangs une raie rouge horizontale, puis de nouveau rangs de blanc et sur 10 rangs, elle allait tricoter en jacquard le prénom de son fiancé. Il apparaîtrait en rouge au fond de l'angora blanc dont les poils légers le cacheraient à demi, le tiendraient bien au chaud. Pour simplifier, elle l'écrira en caractère unique. Il suffisait alors pendant 10 rangs de compter 8 mailles à l'envers en blanc et 2 mailles à l'endroit en rouge. Ce serait un très joli chandail. L'après-midi, elle allait au cinéma avec une amie voir le dernier film de Manfred Carotte et la fille qui portait dans ce film un pullover juste comme celui qu'elle était en train de faire. Elle avait rendez-vous à l'Oiseau Vert à 4h30 pour ne pas manquer le début du film et arrivait cependant après les actualités, déjà vues 19 fois cette semaine. Ce même matin, Pierre, l'un des invités de Fidèle, se rasa soigneusement et mit une chemise propre avant de se rendre à son travail. Il était ingénieur dans une entreprise hardie. Il attendait un coup de téléphone du major pour lui indiquer l'adresse de Fidèle et le retrouver au besoin avant le dîner afin de faire en sa compagnie. Or, le major descendit à 14h20 de son avion spécial, laissa sa valise vide à la consigne et emporta la valise d'un de ses voisins de queue pour compenser la perte ainsi subie. Appela à grand cri un taxi, signala au conducteur qu'il avait du noir sur le nez, descendit prendre le métro et n'en laissa pas pour les autres, sortit à 15h de la station voulue et gagna pédestralement le Bol d'Or et l'entrée de son hôtel particulier, rue Cœur de Lion. Il en ressortit une demi-heure après, laissant à la domesticité le soin de faire justice de l'épouvantable désordre réalisé dans ce temps record. Il avait changé de complet, moulinette au moyen d'une élégante canne d'écaille blonde, et son œil de verre brillait comme une phare, aveuglant définitivement les rares personnes qui l'honoraient d'un regard. Il entra dans un café, décapita d'un revers de canne un inoffensif consommateur, arrêta les protestations du garçon au moyen d'un gros pourboire qui lui glissa dans la bouche comme un baillon et s'enferma à double tour dans la cabine téléphonique dont le plancher céda sous son poids à la suite d'une manœuvre défectueuse du cadran. Le major se retrouva donc dans la cave du café, préleva à cette occasion quelques bouteilles choisies qu'il répartit dans ses diverses poches, monta l'escalier, sortit avec un grand naturel et chercha un établissement plus solide. Il le trouva, s'installa, mit un jeton dans la fente et appela Pierre. Assisté de Peter Gneux, Laurent, l'ami de Fidèle, opérait son quatrième hyparion de l'ovaire depuis le début de la journée. Il allait procéder à la fixation. Le patient reposait sur un chevalet de tube nickelé de tréteau en forme de lettre A. Sa colonne vertébrale s'équilibrait sur l'arête de la lettre. La tête et les pieds pendaient de la part et d'autre le long des deux branches de l'A. Son ventre était tendu comme une perche. La douleur de cette position faisait oublier les cruels élancements causés par l'hyparion. Un gros réflecteur blanc dardait sur le champ opératoire, une lueur stridente et l'hyparion s'agitait vaguement sous la peau. La lumière le gênait.
Évipant,
dit Laurent. Peter Gneux prépara la seringue, frotta la saignée du malade avec un tampon d'ouate imbibé d'alcool et piqua l'aiguille dans la veine bleuâtre et cordée qui éclata avec un petit bruit humide. Il chercha un autre endroit et n'en trouvant pas, planta d'un geste vif la pointe biaise sous l'aisselle velue. Le liquide argenté descendit lentement sous la pression du piston, tandis qu'une petite protubérance conique se formait sous l'œil droit du patient.
« Comptez jusqu'à 10. »
Et le malade s'arrêta à 6.
« Peter, c'est très bizarre, » dit Peter. « Non, d'habitude il ne dort pas avant 20 secondes. »
« Je ne dors pas !»
bria le malade.
« Je ne sais pas compter plus loin. »
et il s'endormit d'un coup sur le chevalet. Sa colonne vertébrale cessa d'être maintenue par la tension nerveuse spécifiquement due à l'état de veille, se plia d'un coup et épousa le profil aigu de l'assemblage cubique.
Tu le vois ?
Je le vois.
L'hyparion, sérieusement gêné, tentait d'échapper à la clarté du réflecteur.
Aiguille.
Peter la lui passa. C'était une grosse aiguille d'acier bleu, munie d'une poignée nickelée. Laurent visa soigneusement et planta l'aiguille acérée dans la masse foncée qui cessa de remuer sous la peau. Il la maintenait de tout son poids. Au bout d'un instant, il relâcha son effort.
Il est fixé. On peut opérer. Dépêchons-nous, j'ai rendez-vous ce soir à 7h chez un ami.
Fidèle accueillit Pierre et le major dans l'entrée dont la bonne venait de leur ouvrir la porte. Laurent n'est pas avec vous, Pierre ?
Bah, il vient de son côté. Je te présente le major.
Très heureux, du reste, vous n'êtes pas en retard. J'avais prévenu Laurent pour 7h, il n'est que 6h15, nous allons avoir le temps de bavarder.
Vous êtes bien aimable de nous mettre à l'aise. Nous pourrions attendre sur le palier.
Fidèle le prit pour une bonne plaisanterie et s'esbaudit en conséquence. Les deux autres firent chorus et cela se termina sur un accord de quinte augmentée. Passons dans le studio. Et ils y passèrent. Le papier des murs représentait des oranges vertes sur un fond violet mauve. Un petit bar, un cosy, une table, des fauteuils de cuir. Jus de raisin ?
Fermenté, ici est pour moi. On l'appelle quelquefois cognac, d'autres fois armagnac, enfin ça suivant les régions.
Ça fait beaucoup voyager.
J'ai.
Les deux autres étaient assis sur le divan, verre en main. Le major prenait du fond d'un fauteuil fourré de duvet fin.
Vu les océans et les mers, le nouveau monde et l'ancien, le nouveau d'abord par goût et l'ancien en son temps comme il se doit, j'ai visité les poches de bon nombre de mes concitoyens, j'ai brûlé le pavé de villes réputées incombustibles, j'ai fait sonner sur l'asphalte des capitales le bout d'oreille des mégots que je jetais négligemment, drapé dans quelques ulsters de fabrication rubézienne et toujours conscient des merveilles que je découvrirai le lendemain.
Vous avez vu des cimetières ?
J'en ai rempli, froidement. Je pourrais vous décrire les fosses de terre rouge des îles sous le vent où les indigènes enterrent leurs morts, drapés dans les linceuls de Pandanu. Le soir, au lever de la lune, les veinées poitrines au vent chantent les paroles mélodieuses de chants des ancêtres. Oh, Arrivilia, oh, Arrivilia, Tatapi, Aïa, Tatapi. Quelque chose comme ça, ou après ce verre. Arou, Arou, Ari. Mêla-toi, Wabi. Et il y a encore bien d'autres paroles que je ne vous dirai pas, car vous êtes chrétien, je suppose. Et le sorcier de l'île brûle une chandelle de circoncise en s'inclinant vers l'astre des nuits.
Est-ce qu'il met des pierres sur les tombes ?
Des tonnes de pierres.
Sculptées ?
Toutes sculptées.
Sculptées comment ?
En forme de pierre. Où est-ce qu'on dîne bientôt ?
Oui, nous allons peut-être attendre Laurent.
Téléphonez-lui donc, il se dépêche.
Oui, j'y vais. Il se leva et passa dans le bureau de son père. Le major en profita pour essayer les diverses boissons que contenait le bar et se rassit comme revenant fidèle.
Alors ?
Il ne peut pas venir tout de suite. Il vient d'arriver une femme qui avait les deux yeux au beurre noir et le cuir-chevelu entamé. C'est son mari qui lui a fait ça.
Voit-elle pas le lui rendre ?
Attendez, savez-vous ce qu'elle a dit à Laurent ? Elle lui a dit « Je ne pouvais pas devant le gosse et ça aurait fait un mauvais effet. »
Ces femmes du peuple sont parfois d'une vertu.
Et le major eut un hoquet et le mit sur le compte de son œil avec un implomb indécent. Oui, c'est bien de la part de cette femme. Laurent pense avoir terminé d'ici un quart d'heure.
Allons, tant mieux. Donc, comme je vous disais au Groenland, lorsque j'ai rencontré...
Noémie sortit au bras de son ami du cinéma l'impérieux Cujas où Manfred Carotte venait de succomber sous les coups impitoyables d'une bande de cruels tortionnaires bien plus âgés que lui. Elle avait les yeux pleins de larmes et son entorse lui faisait un peu mal. Le soir venait vite et l'air pluvieux formait des halos alentour des globes électriques. Il circulait pas mal d'autos et des véhicules lourds à traction mécanique destinés au transport des denrées inertes.
Et loin de conserver la mort en parfait état, il convient de noter que la glace polaire les congèle complètement au point de les rendre durs comme de la viande extraite d'un frigorifique où cependant il n'entre pas une parcelle de glace. Je vous laisse le soin d'expliquer cette anomalie.
D'accord, ça c'est génial, mais est-ce que les Esquimaux sculptent les morceaux de glace qu'ils mettent sur ces tombes?
Non, pour la raison bien simple que ces tombes sont en creux. On retire un morceau de glace et on met le client et on verse un peu d'eau dessus, mais pas jusqu'en haut du bord.
Tiens, mais pourquoi?
On peut l'expliquer par la physique. L'eau qu'il verse provient du morceau de glace préalablement retiré. Chacun sait que la glace perd du volume en fondant.
Mais puisqu'elle regèle par la suite...
Oui, mais vous oubliez les pingouins.
Ah, puis les pingouins, c'est...
Ils ont toujours soif. Ils ne sont pas les seuls, ajoutez. Ah, c'est... J'en remarque bien quelque chose, moi.
Et Fidèle remplit le verre du major, et celui-ci reprit.
Bah donc, téléphonez, Laurent. Laurent, mon vieux Pierre, il doit avoir terminé.
Pierre disparut dans le bureau, et on entendit de là-bas les échos de son insistance. Il revint dans la pièce.
Il ne peut pas venir.
Encore sa bonne femme?
Non, c'est le mari. Il a deux côtes cassées, le nez enfoncé et une fracture du col du fémur.
Heureusement qu'elle s'est gênée à cause de la gosse. Mais dites-moi, alors vous vous mariez demain?
Oui, demain, à la mairie.
Et comment est votre fiancée?
Elle est jolie. Elle est jolisse comme du porphyre poli, elle a des yeux comme des grosses perles noires, des cheveux roux foncés relevés en couronne, une poitrine de marbre, et elle a l'air d'être isolée du reste du monde par une petite grille de fer forgé.
Suggestif,
apprécia le major, tandis qu'un frisson lui parcourait l'échine. Noémie était vraiment jolie, même après que le camion l'eût projeté contre le trottoir. Sa tête sonna et ses dents s'entrechoquèrent violemment. Son ami se mit à crier. L'ambulance ne vint pas tout de suite et l'hôpital le plus proche, c'était l'Hôtel Dieu. Alors on la porta sur un brancard. Dans les couloirs, les infirmières passaient, vidaient les seaux pleins d'amygdales ou d'appendices que les assistants des chirurgiens venaient de déposer à la porte des salles d'opération. Deux d'entre elles jouaient avec un gros ballon d'oxygène à tranches rouges et jaunes. Noémie, sur son brancard, avait encore ses belles lèvres rouges bien ourlées, ses cheveux roux foncés, son nez droit, mais ses yeux étaient fermés.
Bon, tout de même, ce coup-là, Laurent, vous lui dites de venir en vitesse, ou ça, moi, je m'en vais.
Oui, je vais inciter, je l'appelle tout de suite. C'est vrai qu'il nous embête avec ses malades à la fin. Allô, Laurent, s'il te plaît, viens, le majeur a faim, dépêche-toi, on t'attend.
Je peux pas, on vient de m'amener une fille renversée par un camion.
Viens tout de même, laisse un autre s'en occuper, on s'en fout.
Écoute, ça m'ennuie, elle est jolie avec ça, la petite, en plus.
Tu me dégoûtes, cette parole te condamne, je t'en prie, fais un effort, c'est volontairement de vie, garçon.
Bon, mais si c'est Anne de Duval-Larade, ce sera ta faute.
C'est bon, il vient.
À table, à table, à table.
Et naturellement, l'opération réussit, mais pas à Noémie qui mourut, et comme il ne restait pas de place pour mettre son corps, on prévint tout de suite ses parents afin qu'ils la ramènent immédiatement à la maison. Elle était déjà enveloppée d'un drap, car il est pénible de constater le résultat du travail que nécessite une fracture du crâne, mais on leur donna ses cheveux. Il avait fallu les couper, car ils étaient très longs. Il s'agissait de la route déserte des bisons ravis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur UFM. C'était la 411e. Je vous donne rendez-vous demain avec les autres à 23h. Sinon, c'est le docteur Perchu.
Allez, fais des beaux rêves, bébé Schtroumpf.